Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Comme chaque vendredi, nous parlons d'éducation et aujourd'hui, plus spécialement, des allocations ou des bourses d'études pour les étudiants dans leur propre pays. C'est parfois, chez certains d'entre vous, un sujet assez chaud. Alors, faut-il une allocation d'études pour tous les étudiants, comme cela se pratique notamment en Europe du Nord, quel que soit, c'est-à-dire le niveau de richesse des parents? L'autonomie, l'émancipation des étudiants vis-à-vis de leur famille passe-t-elle nécessairement par le financement de l'État, du coup, qui prendrait le relais sur la famille? On va en discuter avec le syndicat étudiant l'UNEF en France. Bonjour Lila Lebas.
Bonjour.
Vous êtes présidente de l'UNEF, vous avez 23 ans, vous êtes bien sûr vous-même étudiante. L'UNEF qui est un des principaux syndicats étudiants en France. Également dans le studio, Jean-Pierre Bégin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du développement au CROUS de Paris, c'est-à-dire ce sont les œuvres universitaires hein, pour l'Île-de-France.
C'est le service public de la vie étudiante.
C'est ça, donc les services sociaux, tout ce qui n'est pas pédagogique à proprement parler. Nous serons également en ligne avec Jean-Pierre Frigo, qui est spécialiste de la Finlande et qui sera à Helsinki en direct avec nous. Et puis notre correspondant Yves-Laurent Goma au Gabon, où le problème récurrent, ce sont les retards de paiement des bourses d'études versées à presque tous les étudiants. Et chez vous, les voisins, que pensez-vous des attributions des bourses d'études? Vous pouvez bien sûr nous appeler pour participer au dialogue au 33 1 84 22 71 71 et tous vos messages sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter. En fin d'émission, pour suivra notre série Paroles de jeunes sur l'élection présidentielle en France. Ils ne votent pas encore, mais ils ont leurs opinions politiques.
7 milliards de voisins.
C'est sur RFI.
Je vous lis le message de Diao qui a posté de Dakar. Je pense pas que c'est son prénom, ça doit être son nom de famille. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il se fait appeler sur Facebook. Et voici ce qu'il nous dit. Si on a droit à un titre d'étudiant, on peut aussi avoir un droit à un titre de bourse. Cela n'affecte pas l'égalité et la justice au sein de ces universités. Rappelons qu'une bourse, c'est pour accompagner l'étudiant. Elle ne le rend donc pas riche. Donc, quelle que soit notre classe sociale, tous les étudiants devraient avoir le droit à une bourse. Voilà. Et puis, j'en profite aussi pour faire une petite parenthèse, parce que la nouvelle est tombée ce matin sur les fils de dépêche. En France, aux États-Unis, le ministère du budget américain vient d'annoncer la suppression des programmes de soutien scolaire aux enfants les plus démunis, qui comprennent des repas gratuits à l'école pour plus d'un million d'enfants et d'adolescents. Et manger, bah, c'est quand même important pour étudier. Je vous vois acquiescer, Lila Lebas. Le budget 2018 aux États-Unis doit encore être approuvé par le Congrès, mais c'est le genre de nouvelles qui vous inquiète.
Alors évidemment, c'est très inquiétant, notamment aux États-Unis, quand on voit le taux d'endettement des jeunes qui veulent poursuivre des études dans l'enseignement supérieur, qui atteint des niveaux astronomiques. Se dire que maintenant, on va enlever des aides qui existaient pour les plus pauvres, les plus précaires, ça va faire qu'accentuer...
Et déjà, l'école primaire et secondaire, oui.
Tout à fait, ça va faire qu'accentuer les inégalités sociales et le gouffre pour pouvoir avoir accès à un diplôme et s'insérer professionnellement sur le marché du travail.
Alors l'allocation d'études ou l'allocation d'autonomie pour les jeunes, ça fait des années qu'on en parle en France. Et que votre syndicat, d'ailleurs, la réclame. Pourquoi ?
Oui, c'est sûr que ça fait des années qu'on en parle et qu'on la réclame, mais notamment là, à l'occasion des élections présidentielles, c'est le moment de pouvoir le réaffirmer. Pourquoi ?
Alors, le débat n'est nulle part chez aucun candidat, hein, d'ailleurs, la situation des bourses d'études des étudiants en France, personne n'en parle.
C'est effectivement un débat qui est très peu exploité en ce moment, mais c'est un débat qui est pourtant important, puisque, en gros, pourquoi on réclame, nous, cette allocation d'autonomie ? Puisqu'on pense que quand on est jeune, quand on est étudiant, on est souvent majeur légalement, donc c'est-à-dire qu'on est responsable de nos actes, et pourtant, socialement, on nous renvoie indéfiniment à la feuille d'impôt de nos parents pour savoir si on a le droit ou non à des aides sociales. Et pour nous, c'est ça le principal problème. C'est-à-dire que quand on est jeune, on n'est pas autonome, on n'est pas indépendant de notre situation familiale. Et pourtant, on a envie de faire nos propres choix de vie, on a envie de pouvoir les études de notre choix, de pouvoir tout simplement avoir un droit à l'avenir. Et pourtant, aujourd'hui, notamment en France, ce n'est pas le cas. Par exemple, même les minima sociaux, le RSA, ne sont pas accessibles aux moins de 25 ans. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir 25 ans pour pouvoir avoir accès aux minima sociaux et pouvoir avoir accès à essayer d'avoir accès à une indépendance.
Ce qui veut dire très concrètement qu'il y a beaucoup d'étudiants en France qui disent ah bah moi j'ai décidé de faire telle ou telle étude, mais bon, mes parents m'ont surtout poussé à faire ça parce que voilà, ça coûtait moins cher, on trouvait du travail plus facilement, plus vite. Dans le choix d'études des étudiants, beaucoup beaucoup évoque l'influence des parents.
Tout à fait. Aujourd'hui, le choix d'orientation, du coup, n'est pas forcément libre pour un jeune. Ça dépend de sa situation familiale, encore une fois, puisque les bourses dépendent du système familial. Donc si une famille veut imposer à un jeune de faire soit des études de droit, puisqu'il y aurait plus de chances d'insertion professionnelle, ou l'empêche d'aller dans une école, je ne sais pas, qui coûterait trop cher pour pouvoir, puisque les frais d'inscription seraient plus chers qu'à l'université, ça c'est des handicaps que connaissent les jeunes aujourd'hui quand ils veulent tout simplement entrer dans l'enseignement supérieur. Et donc c'est des inégalités sociales qui se creusent, et on voit bien par exemple entre le pourcentage d'enfants de cadres ou d'enfants d'ouvriers dans l'enseignement supérieur, où il y a un écart qui est important et qui se creuse justement au vu du système d'aide sociale qui aujourd'hui renvoie toujours à la feuille d'impôt des parents et à la situation familiale du jeune alors qu'il a envie d'être indépendant et autonome.
Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'aide sociale pour les étudiants nécessiteux en France, hein, Jean-Pierre Bégin. À l'heure actuelle, quelle est la proportion d'étudiants qui perçoivent une bourse?
Alors je dirais qu'effectivement, comme vous l'indiquez, c'est tout le contraire, puisque à l'heure actuelle, on compte en France 2 600 000 étudiants. Donc on a 2 600 000 étudiants et on a 37% d'étudiants qui touchent des bourses sur critères sociaux. Alors effectivement, pour revenir sur la réflexion que vous faisiez, les bourses d'enseignement supérieur chez nous, hein, historiquement, et c'est le droit positif, elles constituent une aide complémentaire à celle de la famille. Mais elles sont faites effectivement pour répondre aux difficultés matérielles des étudiants dans l'enseignement supérieur. Alors je tiens à ajouter que c'est la philosophie générale, c'est l'architecture en fait de notre aide, elle est centrée là-dessus, c'est-à-dire qu'on part de la situation de l'étudiant perçu à partir de sa famille. Il n'en demeure pas moins que aujourd'hui, il y a eu un travail de fond en fait qui a été réalisé par les pouvoirs publics en fait, notamment depuis 2012 où on a vu le nombre de boursiers s'accroître. Il y a eu une refonte en fait des grilles.
Oui, mais pour toucher moins du coup, hein, souvent.
Quelquefois, mais pour plus de 200 000 étudiants, ça a été en fait la refonte des grilles. Ça a permis de plus acquitter de droits, par exemple, d'inscription à l'université.
Ça constitue pas une aide délirante parce que en licence, c'est près de 180 euros l'inscription à l'université.
C'est vrai,
pas dire que ça soit une aide faramineuse sur 180 euros.
Effectivement, mais quand ça concerne à peu près 200 000 étudiants, on ne peut pas dire que ce soit négligeable à l'échelon en fait, de la communauté universitaire.
Mais alors à l'échelon de l'étudiant, l'étudiant le plus chanceux quand il est boursier de l'État français, quand il touche le jackpot, entre guillemets, il touche combien sur une année?
Alors je ne parlerai pas de jackpot, mais par exemple en 2016, le montant annuel de la bourse la plus élevée, c'est 5 600 euros, donc qui est versé de juin à septembre. Alors derrière ça, si vous voulez, l'aide de l'État ne se limite pas à ça. L'aide de l'État, elle intervient aussi sur des aides comme l'allocation logement, comme qui est distribuée donc par le réseau des caisses d'allocation familiale. Il y a aussi
L'aide au logement est une aide substantielle, hein, ça il faut bien le rappeler. C'est pour des étudiants qui n'habitent pas chez leurs parents, qui ont un loyer.
Tout à fait.
Et qui peut aller jusqu'à
ADSAPL, donc c'est plusieurs milliards d'euros en fait. Hein.
Oui, non, mais ça c'est à l'échelle publique, mais pour un étudiant, il peut toucher très facilement 150-200 euros par mois pour l'aider à payer son loyer.
Absolument. Si on prend par exemple si on prend le droit positif aujourd'hui dans l'Académie de Paris, un étudiant qui acquitte un loyer de 400 euros touchera à peu près 250 euros au titre de l'APL, ce qui est absolument pas négligeable.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment, Lila Lebas, que les aides, même si elles sont conditionnées par les ressources financières de la famille, sont suffisantes pour les étudiants?
Non, aujourd'hui, on le voit bien, elles ne sont pas suffisantes, puisqu'il y a un chiffre clé, mais qui nous montre, c'est qu'un étudiant sur deux, pendant ses études, est obligé de se salarier à côté pour pouvoir les financer. Et souvent, très souvent, le salariat étudiant, c'est une obligation, c'est pas un choix. En plus de ça, ça ne correspond pas, ça n'a pas de vertu pédagogique avec le cursus universitaire. Et en plus de ça, c'est la première cause d'échec à l'université, puisque c'est du temps en moins passé à réviser ses cours, à aller en cours, à travailler tout simplement son cursus universitaire. Et donc aujourd'hui, quand on voit l'aide la plus haute pour les jeunes, notamment délivrée par le CROUS, qui effectivement a augmenté suite à différentes batailles justement et revendications de l'UNEF pour augmenter l'investissement dans le système d'aide sociale, qui est aujourd'hui environ de 555 euros par mois, c'est pas suffisant quand on voit que le seuil de pauvreté aujourd'hui en France, même par l'INSEE, il est estimé à 1083 euros pour pouvoir vivre correctement pour une personne seule. Alors pourquoi un jeune pourrait vivre avec moins que
avec
ça par mois
ouais.
Avec moitié moins, notamment quand on voit le coût de la vie qui qui augmente chaque année. Nous, on fait une enquête annuelle et à la rentrée 2016, c'est 1,23% d'augmentation du coût de la vie pour un étudiant, alors qu'elle était 0,2% pour le reste de la population.
Et sachant qu'il y a des cursus d'études où il est très difficile de travailler parallèlement parce qu'il y a une amplitude de cours énorme, beaucoup de travail personnel à fournir et donc à un moment donné, ça joue sur la santé de l'étudiant.
Sur la santé et sur du coup la diversité des publics qui ont accès à ces formations, effectivement, puisque quand un jeune est dans l'obligation de se salarier pour pouvoir payer son loyer, payer ses besoins universitaires, il ne fait le choix de ne pas aller dans ses classes préparatoires, par exemple, qui ont une amplitude horaire tellement forte que le salariat est impossible à côté pour un jeune.
Jean-Pierre Bégin.
Alors, si vous voulez, donc, ce qu'il faut voir aussi, donc, au-delà de la bourse d'enseignement supérieur, dont on parlait à l'instant, il y a quand même le service public de la vie étudiante, en fait, dispose d'un panel d'intervention, si vous voulez, pour accompagner l'étudiant au quotidien sur les campus. Par exemple, le réseau des œuvres universitaires, et c'est le cas donc au CROUS de Paris, nous avons donc un réseau d'assistantes sociales qui se trouve en première ligne sur les campus, dans les grandes écoles, dans les grands établissements, à l'écoute des étudiants, à l'écoute de leur situation individuelle. Dans ce cadre-là, elles sont chargées de faire des évaluations sociales, elles accompagnent donc les étudiants à travers des aides annuelles ou des aides ponctuelles. Ça, c'est pas négligeable non plus, il faut en tenir compte. Et puis, lorsqu'on parle du niveau de vie de l'étudiant, il faut savoir également que le service public de la vie étudiante, les CROUS, propose également un tas de services, notamment de la restauration. Je rappelle que le prix d'un repas complet équilibré aujourd'hui dans les restaurants universitaires est de 3,25 €. Je rappelle également que...
Et l'étudiant paye ?
3,25 €,
mais le coût de revient pour l'État ?
On est à 7,50 €.
D'accord. Donc le restaurant universitaire est largement subventionné par l'État ?
Absolument, il est subventionné par l'État. Et ce que je voudrais dire, c'est que le réseau des œuvres s'est mobilisé justement avec les plans nationaux de santé pour pouvoir donc s'appliquer à servir quotidiennement des repas adaptés en fait à tous les étudiants. Donc, ça n'est pas négligeable parce que les autorités donc ont décidé, par exemple, de geler par exemple, le prix du repas l'année dernière. Ouais. Alors, Il n'y a pas eu d'augmentation, par exemple, ça n'est pas négligeable.
Ce que vous nous dites, c'est que le gouvernement dépense beaucoup pour aider les étudiants, mais qu'à l'échelle des étudiants, évidemment, ça ne semble pas suffisant. On va y revenir parce que le gouvernement socialiste avait promis une réforme sur l'allocation d'autonomie pour les étudiants et que cette réforme n'est pas arrivée, qu'elle n'existe pas, cette allocation d'autonomie pour tous les étudiants, quels que soient les revenus financiers de la famille. Et en Europe, on a des situations très différentes, très contrastées. Les Européens ne sont pas tous égaux pour accéder aux études supérieures. L'Allemagne est un des pays en tête du classement européen en termes d'aide versée aux étudiants, avec des frais d'inscription très bas, des bourses sur critères sociaux qui peuvent atteindre près de 9 000 €, jusqu'à 12 000 pour les étudiants les plus méritants. Et puis, il y a aussi, bien sûr, les pays d'Europe du Nord, la Finlande, la Norvège, le Danemark. On est en ligne avec un franco-finlandais. Bonjour Jean-Pierre Frigo.
Oui, bonjour.
Vous êtes spécialiste de la Finlande, vous avez écrit un livre qui s'appelle Les Finlandais, vous êtes en Finlande en direct, vous êtes à Turku, c'est bien ça ?
Oui, je suis à Turku.
Où ça se trouve exactement ?
C'est entre Stockholm, disons géographiquement, si vous tirez une ligne entre Stockholm et Helsinki, c'est au milieu, ça correspond à Biarritz pour la France, quoi. Mais c'est la deuxième ville de Finlande.
Alors, la Finlande est-elle vraiment un paradis financier pour les étudiants ?
Écoutez, je ne crois pas que ce soit un paradis financier, mais j'écoutais nos interlocuteurs français. La situation a l'air quand même nettement meilleure ici, quoi, parce que il n'y a pas le même patchwork d'aide et qui est très compliqué vu d'ici, quoi.
Oui, le même patchwork, pour ne pas dire la même opacité, parce que pour les étudiants, c'est compliqué tout de même de faire des demandes de bourses en France. Oui. Mais alors, combien perçoivent les étudiants finlandais ? Perçoivent-ils tous la même chose ? Est-ce qu'il y a une allocation logement en supplément ? Comment ça fonctionne ?
Écoutez, il y a trois sources de soutien financier. D'abord, il y a ce qu'on appelle opintoraha, c'est-à-dire automatiquement, quand vous êtes étudiant, vous touchez cette somme, vous n'avez pas à la rembourser, elle tombe d'elle-même. C'est 336 € par mois actuellement. Alors ça dépend des matières, ça dépend de l'âge, ça dépend évidemment si vous habitez chez vos parents, ça ne va peut-être pas être 336 € exactement, ça dépend si vous êtes marié ou pas, si vous avez des enfants à charge ou pas, etc. Je veux dire marié parce que votre conjoint peut-être va travailler et à ce moment-là on tient compte de ses revenus. La deuxième source, c'est la fameuse allocation logement dont on parlait tout à l'heure. En Finlande, ça correspond à 80% du loyer. C'est-à-dire, ça correspond à peu près à ce qui se passait sur la France. Mais ça, elle ne doit pas.
Ah non, c'est beaucoup plus. 200, oui.
252 euros, elle ne doit pas aller au-delà de 252 euros par mois.
Oui, oui, mais enfin, le prix des loyers n'est pas le même en Finlande. Hein. Voilà.
D'accord. Oui, oui et non. Attendez, je vous arrête là, parce que oui, vous avez raison, les loyers peuvent être... Ça dépend de quelle ville on parle. Par exemple, il y a une très grande différence de 30% entre Turku et Helsinki. Et d'autre part, il y a une chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est les cités universitaires. Par exemple, il y a beaucoup de places en cité universitaire, on n'a pas de refus. Et là, les cités universitaires sont tout à fait... ce sont des logements... On se moque pas de la figure des gens, quoi. Ce sont vraiment des logements tout à fait décents. Et là, le loyer dans une cité universitaire, tenez-vous bien, va de 160 à 340 euros par mois,
oui,
suivant la taille du logement.
Ça veut dire que l'étudiant est largement aidé pour payer son loyer, plus une bourse automatique. Et ensuite, est-ce qu'il y a d'autres types d'aides qui peuvent se rajouter?
Oui, il y a un troisième volet, c'est le fameux prêt étudiant. Alors là, c'est facultatif, mais je pense que 90% des étudiants le prennent. Donc, il touche à ce moment-là 400 euros par mois. Alors, ça ne vient pas de l'État, c'est garanti par l'État, c'est un système très nordique, mais ça vient par des banques privées.
Mais il faut rembourser après les études, une fois qu'on commence à travailler.
Tout à fait. Alors, bon, c'est un remboursement sans intérêt sur des périodes très longues.
Ouais.
Ce n'est pas spécialement douloureux pour le salarié à ce moment-là.
Et pour des étudiants très modestes, il y a d'autres aides qui se rajoutent?
Écoutez, non, il faut se débrouiller. Mais encore une fois, la Finlande est un autre pays, c'est une autre planète, je le répète à longueur de temps. C'est beaucoup plus facile pour des gens modestes de vivre en Finlande qu'en France. Il y a beaucoup plus de justice à tout niveau. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est quand même... Il faut venir ici pour s'en apercevoir.
Et très peu d'étudiants vivent encore chez leurs parents, d'ailleurs, en Finlande aujourd'hui.
Alors, vous avez absolument raison. Ça vient... Bon, ça, c'est une très, très longue histoire. Ça vient de l'idée de famille, le concept de famille est complètement différent en Finlande qu'en... Excusez-moi. En Finlande qu'en France. C'est-à-dire qu'en France, c'est quand même la famille latine, on a toujours une sorte de, encore de patriarcat avec tout le monde groupé dans la maison familiale, on imagine ça. Alors qu'en Finlande, très très vite, c'est une tradition presque automatique, à 18 ans, à 19 ans, pardon, puisqu'on passe le bac à 19 ans, un an plus tard qu'en France, il est automatique que l'enfant, à partir du moment où il étudie, devient autonome. C'est-à-dire que là... c'est l'univers ouvert de la société, qui encore une fois est un état providence et donc un état quand même relativement accueillant, relativement
généreux pour les généreux pour les étudiants, en tout cas un état qui construit l'aide aux étudiants sur l'autonomie. Lila Lebas, est-ce que vous à l'UNEF, un des principaux syndicats étudiants en France, ce que vous demandez pour les étudiants français s'inspire de ce qu'on trouve à l'heure actuelle dans les pays nordiques, que ce soit le Danemark, la Finlande ou la Suède?
Oui, tout à fait. En tout cas, le processus pour calculer les aides sociale, évidemment on s'en inspire puisqu'on ça prouve que ça fonctionne et que ça permet aux jeunes de pouvoir être autonomes.
C'est ça, nous, c'est-à-dire un package automatique sans qu'on regarde
les ressources. L'universalité qui est importante aussi pour nous, à la fois notamment l'université dans l'accès de ces aides. C'est ce qui est le cas en Finlande, où quand un jeune arrive dans l'enseignement supérieur, automatiquement il a une aide qui est versée sur son compte en banque. Donc là c'est 336 euros à peu près en Finlande, mais en tout cas il y a une aide automatique qui est versée pour un jeune qui veut faire des études. Et ce qui est intéressant, c'est encore une fois même l'accès au logement, les aides au logement, quand on voit que c'est 80% du loyer qui est pris en compte, c'est quand même quelque chose qui incite aussi les jeunes à pouvoir être autonomes, à pouvoir être indépendants. Et c'est une véritable aspiration de notre génération en France aujourd'hui de pouvoir avoir accès à l'indépendance, à l'émancipation. Et pourtant, les freins dans le système d'aide sociale sont très nombreux pour
Alors,
pouvoir y avoir
on
accès.
On va y revenir. Jean-Pierre Frigo, vous restez bien en ligne avec nous en direct de Turku en Finlande, parce qu'on a encore d'autres questions à vous poser. On se demande si ce système nord-européen serait transposable dans un pays comme la France. On posera aussi la question à vous, Jean-Pierre Bégin, des œuvres universitaires. Le Danemark, la Suède ont des systèmes comparables. Presque tous les étudiants reçoivent aussi une bourse de l'État pour faire leurs études, qui sont d'ailleurs gratuites. On y revient et bien sûr, nous vous donnons la parole, les auditeurs, au 33 1 80.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI. Nous parlons des allocations et des bourses d'études pour les étudiants dans leur pays, l'autonomie, l'émancipation des étudiants. Alors si on prend la France, 2 600 000 étudiants vis-à-vis de leur famille, passe-t-elle nécessairement par le financement de l'État? Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On en discute avec vous, Lila Lebas. Vous êtes la présidente de l'UNEF, l'un des principaux syndicats étudiants en France. Hein, et l'étudiant est dépendant de la fiche de paye ou des revenus de ses parents pour obtenir une aide sociale ou pas, bien sûr. Ce qui veut dire que, alors, on peut considérer que c'est juste hein, et que l'étudiant riche n'a pas à percevoir des aides de l'État. C'est tout le débat. Vous vous dites, en tant que syndicat étudiant, non, vous militez pour une allocation. Alors, je ne sais pas si on pourrait employer le terme universel qui est très connoté maintenant, mais enfin, pour une allocation d'autonomie. C'est bien ce que vous dites, hein, Lila Lebas.
Nous revendiquons c'est une allocation d'autonomie.
Pour tous les étudiants.
Tous les étudiants.
Jean-Pierre Bégin, vous êtes directeur du développement du CROUS de Paris, c'est-à-dire des œuvres sociales hein, universitaires.
C'est ça, le service public de la vie étudiante.
Voilà, et donc vous êtes le guichet auquel s'adresse l'étudiant pour obtenir des bourses sur des critères sociaux.
Tout à fait.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71. Je voudrais lire des messages postés par des étudiants sur le continent africain où le sujet est tout de même assez chaud, hein, les bourses d'études. Dans les pays africains, nous dit Brice, qui est à Yaoundé, comment régulariser ce système d'allocation d'études pour tous les étudiants de toutes les couches sociales? Et pourquoi est-ce que les informations liées à l'octroi de ces bourses n'est pas toujours divulguées solennellement, de manière transparente, pour que les étudiants de divers horizons puissent en bénéficier? Kizito, qui est à Lomé, au Togo, nous dit, riche ou pauvre, on mérite tous une bourse. C'est vraiment le cri du cœur. René, également à Lomé, nous dit que les allocations d'études sont destinées aux étudiants les plus pauvres et les plus méritants pour améliorer un tant soit peu leurs conditions de vie en tant qu'étudiants. Mais, malheureusement, nous dit René, de nombreuses universités africaines ne donnent pas accès à ces bourses, ou en tout cas, ne donnent accès à ces bourses qu'aux élèves qui connaissent les bonnes personnes. C'est du clientélisme. Ou encore Marlon, qui est à Lubumbashi, dans le sud de la République démocratique du Congo, écrit ceci, les bourses d'études sont utiles pour féliciter les étudiants brillants et tenter d'améliorer la qualité de l'éducation. Seulement sur quels critères raisonnables, autres que la note, devrions-nous octroyer des bourses? Vous n'êtes pas d'accord avec ça, Lila Lebas? Vous dites
non,
les bourses au mérite?
Non, nous on est contre les bourses au mérite.
Bon, pour vous, un étudiant, une bourse?
Tout à fait, puisque
c'est ce que vous demandez.
Sinon c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que si on donne une bourse seulement à ceux qui auraient les meilleures notes, le meilleur capital culturel de base, le meilleur capital social, comment on fait en sorte pour permettre à chaque jeune, quelle que soit son origine, de pouvoir avoir accès au plus haut niveau de qualification et au plus haut niveau de formation? Pour ça, il faut permettre à chaque jeune d'avoir une aide suffisante pour pouvoir vivre et faire ses études à côté.
Alors sur le continent africain, en tout cas, quels que soient les critères d'attribution des bourses d'études, hein, c'est différent selon les pays, c'est le versement des bourses qui pose problème dans de nombreux pays. Nous sommes en direct avec notre correspondant au Gabon. Bonjour Yves-Laurent Goma.
Bonjour Emmanuel Bastide.
Des paiements de bourses qui font tout de même descendre dans la rue, y compris les lycéens au Gabon.
Oui, en effet, c'est un problème récurrent dans le pays. Il n'y a jamais eu une année scolaire sans une grève liée au paiement de la bourse. Le gouvernement a planché sur la question. Une solution a été trouvée. Tous les étudiants ne perçoivent plus leur bourse au trésor public, mais dans les banques, depuis 3 à 4 ans, ça marche beaucoup mieux. Les soubresauts, par contre, ne manquent pas. Il y a des lenteurs pour intégrer les nouveaux bacheliers dans le système. Leur retard provoque généralement de montées de colère. Le problème reste entier pour les élèves des collèges et lycées. Le système n'a pas changé. Il y a trop de retard et d'arriérés. Cette année, par exemple, les élèves qui descendent un peu partout dans les rues des villes gabonaises revendiquent 4 trimestres de bourses impayées. La dette s'accumule depuis 2015.
Mais alors, qui au juste a droit à une bourse au Gabon?
Bon, commençons par les universitaires. Jusqu'en 2009, pour avoir la bourse, il fallait naturellement être gabonais et avoir son bac à 21 ans. Au-delà, ce n'était plus possible, sauf si l'étudiant réalise 2 succès consécutifs. C'est-à-dire, l'étudiant doit partir de la première en troisième année sans échec.
Ouais.
Là, il pouvait prétendre devenir boursier. Constat, 12 800 jeunes gabonais seulement remplissaient ces critères entre 2010 et 2011. Trop peu, a estimé le président de la République, Ali Bongo. Il a donc supprimé le critère d'âge. Résultat, le nombre de boursiers est passé de 12 800 à 30 300 en 2016 dans les collèges et lycées. La bourse est accordée aux élèves ayant obtenu une moyenne trimestrielle supérieure ou égale à 10.
Ouais. Et à combien s'élève la bourse pour chaque étudiant gabonais ?
Pour les élèves, par exemple, je commence par ce cas, c'est 24 000 francs, c'est pas par trimestre, à presque 37 euros seulement.
Ouais.
C'est une motivation, hein, le montant n'a pas changé depuis plusieurs années. En revanche, pour les étudiants, la somme est variable. Un bachelier qui obtient son bac sans la mention perçoit 88 000 francs CFA par mois. C'est l'équivalent du SMIC dans la fonction publique. 166 000 pour l'étudiant qui a obtenu son bac avec mention, mention bien, j'allais dire. Et pour celui qui obtient son bac avec la mention très bien, tenez-vous bien, il a une bourse de 332 000 francs CFA par mois. Ces montants ont été décidés en 2011 suite à une réforme pour une meilleure répartition des revenus de l'État. Les sommes sont plus importantes pour les étudiants envoyés à l'étranger. Elles sont généralement adaptées en fonction du coût de la vie dans le pays où l'étudiant étudie. Bon, vous avez demandé combien ça coûte. Eh bien,
c'est ça, mais pour l'État, aussi, combien ça coûte ?
Ah oui, oui, la facture est bien lourde. Hein. Elle est passée de 38 milliards de francs CFA en 2009 à 70 milliards en 2017, soit environ 106 millions d'euros.
L'État est capable de continuer à supporter une telle facture ?
Ouais, en effet, l'État n'a pas le choix. Hein. Il doit continuer de le faire. Par contre, c'est la façon de le faire qui doit certainement et très certainement changer. À l'Agence nationale des bourses et stages où nous sommes rendus, on parle de reformer le système. Il est question de resserrer les vis pour rendre la facture supportable. Déjà, le nombre d'étudiants à l'étranger a été considérablement réduit. Ils étaient jusqu'à 10 à 13 000 boursiers gabonais à l'étranger. Aujourd'hui, ils ne sont que 1700.
Ouais. Alors, si on a bien compris tout ce que vous nous avez expliqué, Yves-Laurent Goma, la politique de bourse, c'est essentiellement une politique non pas sur des critères sociaux de pauvreté des étudiants, mais une politique qui est sur le mérite, en fait, hein, en fonction des notes, de la réussite. Il ne faut pas redoubler. Enfin, il ne faut pas traîner, il faut bosser dans son cursus et surtout, il faut réussir. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous en direct de Libreville. On accueille un auditeur qui nous appelle de N'Djamena au Tchad. Bonjour Sangor.
Oui, bonjour Emmanuel.
Sangor ou Saint-Gor d'ailleurs ?
Saint-Gor.
D'accord, très bien. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 et vous souhaitez, j'imagine, nous parler de la situation des bourses des étudiants au Tchad, où la situation sociale est très tendue depuis plusieurs mois.
Vraiment, jusqu'à présent, les universités sont hermétiquement fermées parce que les étudiants revendiquent 6 mois de bourse. Et là, moi, je propose au gouvernement...
Quand vous dites revendique 6 mois de bourse, vous voulez dire de bourse impayée en retard ?
Oui, impayée. Jusqu'à présent, on n'a même pas encore fini avec l'année 2015-2016.
Oui.
Et si seulement la bourse était seulement destinée aux meilleurs, à la fin de leur cycle d'études, ça pourrait vraiment être bien et ça pourrait également encourager le niveau. Mais la bourse, comme c'est destiné à tous les étudiants alors, et certains étudiants quittent leur village natal pour venir dans la capitale pour étudier, et c'est avec cette bourse-là qu'ils payent leur loyer. Et déjà, quand l'étudiant a déjà dans la tête que voilà, à la fin du mois, il va percevoir un 30 000 et qu'il ne le perçoit pas, alors il va manifester.
C'est ça
qui cause vraiment...
C'est ça, ça lui pose des problèmes pour payer son loyer. Vous êtes étudiant à la FI, Saint-Gor ?
Oui, je suis un étudiant, bien sûr.
Et vous-même, donc, vous percevez une bourse, vous ne la percevez plus depuis des mois. Comment faites-vous ?
Vraiment, nous, d'être par rapport à notre situation, c'est avec la roue qu'on se débrouille. Il y a des étudiants qui n'ont pas de parents ici en Djamena. Et c'est grâce à cette bourse-là qu'ils paient leur loyer, qu'ils paient à manger. Et dès que déjà l'État ne les donne pas, ils sont obligés de repartir dans leur village natal.
C'est ça.
Et attendre que, si la bourse est déjà disponible, ils reviennent.
Ouais. Donc sinon, vous êtes dépendant de votre famille quand la bourse n'est pas versée. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Saint-Gor. Alors c'est vrai qu'on le voit bien du nord au sud, la question finalement est toujours la même. Lila Lebas, c'est l'indépendance par rapport à la famille.
Oui, tout à fait. Là, le témoignage qui vient d'avoir lieu, on voit bien que quand là, c'est 6 mois de retard, donc c'est énorme de bourses impayées, où des jeunes sont obligés soit de faire appel à la solidarité familiale, soit de même renoncer aux études. Et ça, c'est effectivement un véritable problème quand on prend toujours en compte justement les revenus des parents. Quand il y a des retards de versement, là, 6 mois, c'est très important. C'est très difficile de pouvoir vivre correctement et continuer ses études.
Mmh. Oui, vous souhaitez intervenir, Jean-Pierre Bégin.
Non, c'est-à-dire que moi, je tenais à dire que aujourd'hui, donc la demande de bourse en France, elle se fait à travers le dossier social étudiant. Donc, on demande en fait à partir du 15 janvier aux futurs bacheliers et en tout cas à tous les étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur de se connecter sur le site étudiant.gouv.fr à partir du 15 janvier. Et là, l'étudiant va avoir la possibilité de demander une bourse d'enseignement supérieur et où. Un logement en résidence universitaire, c'est la procédure qui est en cours. Alors j'en profite puisque c'est l'actualité du réseau en ce moment, hein, puisque cette procédure démarre le 15 janvier et se finit le 31 mai.
C'est suffisamment clair, suffisamment transparent pour les étudiants en France ?
Bah, en tout cas, on voit qu'il y a un dispositif qui est mis en place. Nous, à l'UNEF, on réclame que ce dispositif soit, en gros, automatisé avec l'inscription, la demande d'inscription à l'université. Parce qu'il y a le système admission post-bac pour pouvoir faire ses voeux dans l'enseignement supérieur, tout à fait. Et il y a le dossier social étudiant pour percevoir ou non une aide sociale. Nous, ce qu'on demande à l'UNEF, c'est que tout ça soit fusionné pour permettre qu'il y ait, pour éviter tout non-recours au droit quand on est jeune, quand on est étudiant, puisque beaucoup de lycéens, malheureusement, aujourd'hui, n'ont pas l'ensemble des informations pour pouvoir créer, faire leur dossier social étudiant en temps et en heure, ce qui crée des fois des retards, des fois même des étudiants qui s'aperçoivent un an après qu'ils étaient éligibles au système d'aide sociale et donc qui perdent
Comment
un an.
Comment c'est possible, ça, qu'un étudiant s'aperçoive un an après qu'il était éligible ?
Parce qu'il a discuté avec d'autres étudiants sur l'université, il n'a pas forcément fait son dossier, sa demande d'aide sociale sur le site internet.
C'est le paradoxe, parce qu'il faut reconnaître que depuis quelques années, en fait, le réseau fait un effort très important d'information. Il faut savoir qu'on a des collègues qui se déplacent systématiquement à la fois sur les salons qui s'adressent aux jeunes, systématiquement des informations dans les lycées.
Ouais. Est-ce qu'on sait en pourcentage combien d'étudiants seraient éligibles à l'aide sociale aux études et ne la touchent pas parce qu'ils n'ont pas fait la demande, ils ne savent pas comment la faire? On a eu des chiffres de ce type sur le RSA qui étaient tout de même
assez importants. Moi, je suis incapable, d'une façon tout à fait sérieuse et crédible, je suis incapable de vous donner le chiffre. En fait, sachez que les acteurs de la vie étudiante que nous sommes, on est mobilisé, on est conscient des problèmes, on est tout à fait mobilisé là-dessus. Et ce qu'il faut reconnaître, c'est que, en tout cas, ce n'est pas une pétition de principe, on fait des efforts très très importants via justement à la fois les salons et tous ces portiques, ce portique unique d'ailleurs, étudiant.gouv.fr, qui est une mine d'informations. Ouais.
Tout à fait, il y a des avancées, il y a un site, un portail unique d'information sur les aides sociales qui a été mis en place. Mais nous, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas d'automaticité en tant que telle pour élaborer son dossier social étudiant. Et le plus fréquemment, surtout des retards de bourse, du coup, puisque des demandes qui sont faites hors délai. Et nos étudiants qui touchent leur bourse plus tard à la rentrée universitaire, puisque le temps de traitement des dossiers est du coup décalé.
Ah, il y a des retards de paiement aussi en France, donc.
Pour des demandes tardives, notamment.
Pour des demandes tardives, parce que on a travaillé naturellement à améliorer les procédures, et c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'heure qu'il est, c'est clair, les bourses sont réglées à temps, elles sont réglées mensuellement de septembre à juin. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui en France, on peut pas dire qu'il y ait de problème majeur.
Ouais, pas de bourse pour juillet, août, puisqu'il n'y a pas d'études.
Les étudiants continuent à vivre.
Outre-mer, il y a des exceptions.
Alors, je voudrais qu'on revienne quand même au cas de l'Europe du Nord, qui est tout de même intéressant, puisque vous, en tant que syndicat étudiant, Lila Lebas, vous demandez une allocation d'autonomie exactement comme celle qui est perçue par les étudiants en Europe du Nord, au Danemark, en Finlande, en Suède. Jean-Pierre Frigo, vous êtes toujours en ligne avec nous à Turku, la deuxième ville de Finlande. Vous nous disiez en première partie d'émission que la quasi-totalité des étudiants perçoivent des allocations d'études de manière automatique, plus une aide au loyer pour ceux qui n'habitent pas chez leurs parents. Et vous nous le disiez, la plupart des étudiants vivent loin de chez leurs parents une fois qu'ils ont eu l'équivalent du bac à 19 ans et qu'ils partent faire leurs études à l'université. C'est vraiment une toute autre mentalité. Est-ce que les étudiants sont conscients de l'effort de l'État et est-ce que ça semble normal finalement qu'un étudiant d'une famille riche perçoive exactement la même chose qu'un autre ?
Non, mais on est dans une société luthérienne. C'est-à-dire que la morale fonctionne un petit peu... Oui, protestante, bien sûr. Hein. Bon, vous savez, dans le protestantisme, il y a le calvinisme et le luthéranisme. Oui, oui. Bon, on est chez les luthériens. Donc, il y a cette morale, de morale du travail, une morale assez élevée, qui fait que si les étudiants, la plupart des étudiants que vous pourriez interroger, reçoivent ces aides, mais en même temps s'estiment redevables à l'État, redevables au pays, une fois qu'ils sont devenus salariés, une fois qu'ils ont fini leurs études, de en quelque sorte rembourser ou redonner quelque chose à la société.
Oui, c'est ça, dans la mentalité. Parce que les études sont gratuites, il y a ces bourses qui sont automatiques. Si vous demandez à un étudiant en France à combien revient une année d'études pour l'État, hein, par tête d'étudiant, aucun étudiant ne le sait. Il paye 180 euros en licence, Lila Lebas, vous êtes bien placé pour savoir qu'en réalité, ça coûte beaucoup plus cher à l'État une année de licence quand il faut financer ça par tête d'étudiant.
Ça coûte
plusieurs milliers d'euros.
Tout à fait.
En moyenne.
En moyenne, plusieurs milliers
d'euros. Aucun étudiant français ne le sait. Ça,
Si, les étudiants français en ont conscience. Les étudiants français savent qu'il y a un engagement de l'État. Par contre, ce qu'ils savent aussi, c'est l'état de leur compte en banque et la réalité sociale qu'ils vivent au quotidien. Et moi, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, financer l'enseignement supérieur, financer les aides sociales des jeunes, c'est un investissement pour l'État. C'est pas une dépense. C'est un investissement sur le temps long, puisque quand on a une génération qualifiée, plus diplômée, qui occupe des emplois qualifiés sur le marché de l'emploi après, ça permet justement, c'est même d'ailleurs la meilleure réponse à apporter à la crise économique et sociale qu'on connaît aujourd'hui.
C'est ce qui se dit en Finlande aussi, évidemment, Jean-Pierre Frigo.
Non, mais je suis tout à fait du même avis. En Finlande, le bien-être, disons, la bonne continuation des cours des étudiants, effectivement, est considérée comme un avantage pour la société. C'est évident. Ça, la mentalité va exactement là-dedans.
Est-ce qu'il y a un revers de la médaille à toutes ces aides pour les étudiants qui sont largement aidés ou avec un système en Finlande qui permet à des étudiants de familles très modestes de faire des études supérieures où l'argent n'est pas un frein, on va dire ?
Revers de la médaille, mais qu'entendez-vous par là ?
Ben, je ne sais pas, vous nous brossez un tableau tout à fait idyllique finalement de la situation des étudiants en Finlande.
Mais écoutez, il est idyllique. Moi-même, c'est vrai que je me suis penché sur une éventuelle face noire ou un revers. Je ne vois pas vraiment. Je ne vois pas.
Surtout
quand on compare avec la France.
Ouais, est-ce que ce système serait transposable ou pas ? C'est l'éternelle question que l'on pose parce qu'on dit mais la Finlande, c'est un petit pays, il n'y a pas une grosse population étudiante. En France, on a, rappelons-le, 2 600 000 étudiants.
C'est ça. Alors, je ne voudrais pas laisser décrire une situation négative par rapport à ce qu'on connaît, nous, en France. Hein. Alors, effectivement, vous le rappelez, 2 600 000 étudiants en France. Une intervention de l'État, une intervention de plus en plus massive, puisque je rappelle que depuis 2012, il y a quasiment 600 millions d'euros qui ont été apportés sur les budgets de l'enseignement supérieur. Le budget de l'enseignement supérieur, c'est à peu près 24 milliards d'euros. Donc, c'est pas négligeable non plus. Tout à l'heure, on parlait des conditions d'hébergement des étudiants finlandais. La vérité, donc, c'est qu'en France, il y a eu un effort très important qui a été fait.
On ne va pas comparer avec les conditions d'hébergement des étudiants français, où le parc de logement est largement insuffisant, quand même.
Qu'il soit insuffisant, c'est le constat que vous faites. Je veux dire simplement qu'il y a eu le plan 40 000 logements qui a été quand même fortement soutenu.
Ils sont construits, les 40 000 logements ?
Alors, ils sont en voie d'être construits. En 2013, on avait déjà, entre 2013 et 2016, on a produit quasiment 30 000 logements. À Paris, par exemple, on est passé en 2001 d'une situation où on avait 1000 logements qui étaient gérés par le réseau des œuvres. Aujourd'hui, on en a un peu plus de 7000. Et si vous voulez, donc, lorsque je parle de livraison massive de logements, c'est quasiment 30 000 logements en 3 ans qui ont été livrés dans les principales villes universitaires, qui sont gérées donc par le réseau des œuvres. Et j'entendais tout à l'heure notre auditeur finlandais là, qui nous parlait de niveau de redevances dans les résidences universitaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que là encore, il s'agit donc d'un secteur où l'État intervient massivement. Vous pouvez être logé dans une résidence universitaire à Montpellier, 18 mètres carrés, parfaitement équipées avec Internet, haut débit, etc.
C'est vrai qu'elles
pour moins de 150 euros par mois.
C'est vrai que les résidences ont été en tout cas
à Paris,
pas mal rénovées.
À Paris, aujourd'hui, vous avez les étudiants parisiens qui sont dans les 7000 logements parisiens qui ont des conditions d'hébergement vraiment excellentes.
Lila Lebas, présidente du principal syndicat étudiant en France.
Oui,
vous êtes d'accord avec tout ce qui a été dit là ?
Évidemment qu'il y a eu des avancées et bien heureusement, j'ai envie de dire qu'il y a eu un investissement dans le système d'aide sociale, qu'il y a eu des constructions de logements. Nous, c'est des revendications
ça
qu'on a apportées. On s'est mobilisé d'ailleurs à plusieurs reprises pour pouvoir revendiquer
Absolument.
Justement ces investissements, revendiquer un investissement à la hauteur des besoins du service public du CROUS, puisque nous, on pense qu'il faut donner les moyens au service public de la vie étudiante pour pouvoir justement gérer les logements étudiants, la restauration, les aides sociales. Par contre, ce qu'on constate juste, c'est que la situation actuelle aujourd'hui des étudiants, avec l'augmentation du nombre de bacheliers chaque année, notamment, et ça va encore augmenter l'année prochaine, les réponses sont insuffisantes et le système d'aide sociale ne correspond pas aux attentes et aux aspirations de notre génération. Que le nombre de logements étudiants ait augmenté, oui, c'est une bonne nouvelle et nous, on s'est battu pour que le plan 40 000 soit respecté. On attend encore que des logements sortent de terre, mais en tout cas, il y en a qui ont vu le jour. Donc ça, on s'est battu pour que ça puisse être mis en place. Par contre, ce qu'on voit juste, c'est qu'il faut passer une étape supérieur, il faut être plus ambitieux que ça pour notre génération, pour qu'on ait un véritable droit à l'avenir.
On ne relâche pas la pression pour l'élection présidentielle, donc on aura l'occasion d'en reparler.
Tout à fait, avec plaisir.
Merci à tous les deux, Lila Lebas, présidente de l'UNEF, Jean-Pierre Bégin, directeur du développement du CROUS de Paris. Et merci à vous, Jean-Pierre Frigo, d'avoir été en ligne avec nous, spécialiste de la Finlande. Vous publiez Les Finlandais aux éditions de l'Atelier. Je voudrais maintenant que nous laissions la parole à notre rubrique, les ados commentent l'actu. C'est la nouvelle rubrique de 7 milliards de voisins jusqu'à l'élection présidentielle d'avril prochain. Alors certes, ils ne votent pas encore, mais chaque semaine, des jeunes de 12 à 18 ans réagissent à un thème de campagne en relation avec l'actualité. Et aujourd'hui, nous parlons avec eux de l'affaire Fillon, alors que le candidat des Républicains a été mis en examen mardi dernier pour détournement de fonds publics et abus de biens sociaux. Nous laissons la parole à Angèle, Sophie, Marie. Elles ont entre 16 et 17 ans, elles sont lycéennes en Seine-Saint-Denis et elles réagissent au micro d'Alice Milo.
T'entends bien?
Oui, j'entends bien, oui.
Ok, tu m'entends? Lada.
Et toi, tu prends le micro?
Je raconte que je suis mal à l'aise à l'antenne.
Mais oh!
T'enregistres!
Moi, je sais que François Fillon a fait des détournements de fonds et qu'en fait, il utilisait l'argent de nos impôts pour lui. Donc en fait, il nous a tous arnaqués.
Ouais, il est bizarre, il change d'avis toutes les deux minutes. Un coup il va se retirer parce que s'il est mis en examen, après il est mis en examen mais il se retire pas. Après il va diriger la France d'une cellule de prison, je sais pas.
Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont derrière lui. Hein.
Ça, ben, les gens comme ça, je comprends pas pourquoi ils voteraient pour lui alors que cette personne elle est en... Elle nous a volé de l'argent à tout, à l'État, mais à nous aussi, je veux dire, à nos parents qui payent les impôts. Mais quand nos parents, ils travaillent dur comme faire pour après nous nourrir et tout, ils sont contents parce qu'ils disent bah, j'ai travaillé, j'ai pas fait ça pour rien, ils m'ont pas donné comme ça à cadeau, j'ai travaillé pour avoir cet argent, comme tout le monde doit travailler pour avoir cet argent et que tout le monde ne le fait pas.
Moi, ce que je comprends pas, c'est que François Fillon, quand il détourne 900 000 euros, en fait, il est juste mis en examen alors que, par exemple, il y a des jeunes, pour s'en sortir, ils ont vraiment besoin, on va dire, de faire des choses illégales. Et eux, en gros, ils prennent 10 ans. Et François Fillon, en fait, lui, il est juste mis en examen et là, en fait, il est dehors. Alors qu'il nous a tous arnaqués. Alors qu'une personne qui vend de la drogue, elle nous arnaque pas parce que le client, c'est de lui-même qui vient chercher sa drogue. Enfin, moi, je trouve qu'il mérite moins d'aller en prison que François Fillon.
Bah, c'est sûr.
Parce qu'en fait, lui, il fait ça pour vivre alors que François Fillon, il n'a pas besoin.
S'il est élu, qui nous dit que pendant les prochaines années qu'il va diriger la France, entre guillemets, on ne sait pas ce qu'il va nous réserver. Peut-être que ça va être pire.
Encore, il aurait fait ça pour donner aux pauvres, ok, mais en fait, il le garde pour lui, donc en fait, ça sert à rien. C'est inutile ce que tu fais, c'est bête.
Bah, c'est pour lui, quoi. Enfin, c'est...
Ouais, mais il aurait pu donner aux pauvres ou donner à des gens qui en ont besoin.
Mais tu crois que quand tu corromps de l'argent, tu le donnes aux pauvres? Non, mais sérieusement, enfin, franchement, ils font ça juste pour se remplir les poches, pour partir en vacances quand ils en ont envie, pour offrir des beaux sacs à main à leurs femmes et des belles chaussures. Ah, mais en fait, c'est. J'en ai déjà plein les poches, mais je vais en rajouter plein encore. Mais tu vas pas crever avec tes millions, hein. On va pas t'enterrer avec tes sous. En fait, moi, je pense qu'il devrait déjà le mettre en examen, mais aussi lui demander en fait de rembourser les sous qu'il a volés, en fait.
Personnellement, moi, qui s'élimine de la course lui-même, hein, qui...
Ah bah oui, il devrait se tirer de lui-même, hein, parce que franchement, je sais même pas comment il arrive à se regarder dans une classe quand il se lève le matin. Non, franchement, moi, ce que je comprends pas, c'est que en étant mis en examen, on peut se présenter à l'élection présidentielle, mais en étant mis en examen, on peut pas jouer au foot. En fait. Donc ça, moi, je comprends pas. Tu peux pas jouer avec l'équipe de France quand t'es mis en examen, mais par contre, tu peux te présenter pour devenir président. C'est un truc de ouf.
Et alors donc, vous,
si vous étiez élue présidente de la République, comment vous feriez pour être certaine que les élus de la France ne détournent pas de l'argent public à des fonds personnels?
Moi déjà, je pense qu'il faudrait les suivre. À l'école, quand on fait un stage, notre prof, elle vient dans le stage pour voir comment ça se passe, si on travaille bien et tout ça. Moi, je pense qu'il faudrait faire pareil, en fait. Il faudrait suivre, par exemple, François Fillon, quand il a dit qu'il allait embaucher sa femme, sa fille et son fils. Chaque mois, il fallait faire un compte rendu du travail qu'a fait sa femme, du travail qu'a fait son fils et du travail qu'a fait sa fille. Si le travail n'était pas là, fin de l'histoire. Et à ce moment-là, il n'aurait pas du tout été payé. Et comme ça, il n'y aurait pas eu 5000 euros ou 900 000 ou je ne sais combien perdus, en fait, et juste pour eux. Donc, moi, je pense qu'il faut les suivre à la trace.
Les suivre à la trace, ça se passe un peu comme ça en Europe du Nord. Angèle, Sophie et Marie, en Seine-Saint-Denis, Lila Lebas, vous avez 23 ans, donc c'était pas si loin que ça, vos années lycée. Aujourd'hui, vous êtes présidente d'un des principaux syndicats étudiants en France. Alors, pour les semaines qui viennent, sur quoi vous allez mettre la pression sur les candidats pour les étudiants en France et les jeunes en général?
Nous, on va interpeller l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle sur justement à la fois effectivement la question de la protection sociale des jeunes, on vient d'en débattre, mais la question de l'allocation d'autonomie, comment on garantit aux jeunes un droit aux études, un droit à la formation, et toute la question d'accès à l'enseignement supérieur qui, ça pour le coup, fait un peu débat dans les élections présidentielles. Où on est dans
et qui est un facteur de compétitivité économique pour la France, puisque la France manque de jeunes qualifiés encore aujourd'hui.
Et sauf qu'aujourd'hui, on marche sur la tête puisqu'on nous propose sans cesse toujours plus de sélections. Toujours plus de tri des jeunes, notamment à la fin du baccalauréat, pour savoir s'ils ont le droit ou non d'aller dans telle ou telle filière. Nous, on pense que ça, c'est pas
du tout la bonne solution. On se retrouvera peut-être pour un débat sur la sélection à l'université.
Avec grand plaisir.
Un éternel sujet extrêmement chaud, voire tabou en France. Merci en tout cas. Merci à toute l'équipe. Cécile Lavolo, Camille Néron, Robin Dubrac, Didier Cherouz. Et on se retrouve lundi, 7 milliards de voisins, pour des métiers au bord de la crise de nerfs, magistrats, policiers ou même journalistes politique. Ne manquez pas l'émission, c'est lundi.
International.